Mais vous avez même en araméen, qui est la langue la plus proche de l'hébreu, cette racine existe, elle ne signifie pas créer. Elle signifie mettre en dehors. La racine bara en araméen signifie mettre en dehors, alors que en hébreu, elle signifie créer à partir du néant. Il y a une analogie au niveau de l'imagerie intellectuelle même entre mettre en dehors et faire exister. Je vais vous dire en latin, existere, ça veut dire situer à l'extérieur. J'existe en tant que j'existe hors de quelqu'un d'autre. C'est ce que véhicule le terme latin, d'où vient le mot existence, existant en français, qui est autre chose que être. Donc, eh bien, il n'en reste pas moins que nous sommes en présence pour la pensée humaine, livrée à ses propres forces, devant une impossibilité. Pour la pensée rationnelle et la pensée humaine, la pensée humaine, c'est d'abord la sécurité de la loi de la raison. Ceci dit, il y a d'autres cohérences que la pensée rationnelle. Et ça peut être de la pensée vraie. Mais en tout cas, pour la pensée rationnelle, les mots ayant leur sens de base, la notion de commencement ne fait pas partie de la pensée humaine. Parce que la notion de commencement prise au sérieux, c'est commencement de apparaître à partir de rien. Il n'y avait rien, il y a. C'est ce que nous disons en hébreu, c'est Yesh me Aïn. Aïn, il n'y a rien, Yesh, il y a. Bien, c'est une notion à laquelle nous sommes familiers par l'éducation biblique, mais au point qu'on a oublié que ce n'est pas une notion rationnelle. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon, il y a un autre mystère, c'est la naissance d'un enfant. Alors, c'est un mystère beaucoup plus grand, parce que dans l'apparence, c'est un corps qui a engendré un corps avec la collaboration de notre corps. C'est clair. Mais en réalité, c'est une apparition à partir d'un néant absolu d'un être différent. Ceux qui ont eu des enfants, Mazal Tov pour les autres, ça va venir, eh bien, savent ça. Quand un enfant vient au monde, c'est un monde qui vient au monde. Il est là, bonjour, je suis là, il n'a rien à voir dans sa vie intérieure, qui est son jardin secret, comme disent les poètes, avec les corps qui lui ont donné naissance. C'est pourquoi la Torah prévoit un respect des parents. Parce que c'est grâce au corps des parents que l'âme de l'enfant est venue au monde. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, ce mot de respect enveloppe toute une série de lois, de prescriptions de la halakha à ce sujet, dont la base, c'est de respecter le corps des parents. Une expression très familière au rabbin. On dit qu'on respecte quelqu'un, premièrement, on respecte son corps. Donc, eh bien, parce que c'est grâce au corps qu'il y a une présence. Ce à quoi je fais allusion, qu'en termes simples, on appelle l'âme de la personne qui apparaît à la naissance, mais c'est une présence de quelqu'un qui est autre. Il n'a rien à voir avec ceux qui lui ont donné naissance au niveau corporel. C'est pourquoi la Gemara va dire, à chaque naissance, il y a trois collaborateurs. Je ne sais pas comment on dit ça en français, trois choutafim, associés. Le père, la mère et Dieu lui-même. Mais le père et la mère ont fait les corps, et c'est Dieu qui donne la présence. Est-ce que c'est clair? Or, bien sûr qu'il y a un lien. On dira, à la limite, je schématise beaucoup parce que tous les cas particuliers sont possibles. Dans l'apparence en tout cas, pas n'importe quelle âme vient dans n'importe quel corps. Et effectivement, le corps est le véhicule de la présence de l'âme, et donc le corps va conditionner a posteriori la manière de la présence de cette âme au monde. Donc, dans tous les cas, c'est très, très, très lié. Mais pour bien comprendre, je distingue ces notions. La naissance d'un enfant, c'est autant mystérieux que la création du monde. Voilà, c'est la première réponse à un niveau formel. Et pour relier ces deux notions, c'est que, je dirais très, très rapidement, c'est que, en fait, le jour de Rosh Hashanah désigne la commémoration de la création du monde, mais il faut préciser. En fait, il commémore le sixième jour de la création du monde. Je veux dire, l'homme apparaît au sixième jour du récit qu'on appelle le récit de la création. Et la liturgie à Rosh Hashanah, vous le verrez surtout à Moussaf, dans le passage que je vais vous citer, ne dit pas que Rosh Hashanah est Ayom Briat Haolam, mais Ayom Harat Haolam. Le sixième jour du récit de la création du monde, du récit du commencement, c'est la création de l'homme. Alors, essayez bien de relier ces deux notions. En fait, le jour de Rosh Hashanah, et vous me direz si c'est suffisamment clair, fermez. Vous me direz si c'est suffisamment clair, c'est que dans beaucoup d'expressions traditionnelles, l'histoire du monde commence avec le premier homme. Ce qu'il y a avant, c'est la préhistoire du monde de l'homme. Alors, je voudrais arriver à formuler cela, le lien entre ces deux notions, la création de l'homme et la création du monde. Il s'agit de la création du monde de l'homme, qui n'apparaît qu'avec l'homme. Je vais donner une explication formelle, ensuite j'entrerai un peu plus profond dans la notion elle-même, c'est ceci. S'il n'y a pas de conscience humaine pour percevoir le monde extérieur, le monde extérieur a une toute autre manière d'exister qu'il a dans notre représentation, tellement autre que par rapport à notre représentation, c'est un néant. Je veux dire, un événement du monde extérieur qui n'est pas perçu par une conscience, à travers les catégories de la conscience qui sont l'espace et le temps, qui sont des catégories de la conscience, et nous devons cette analyse en particulier à Kant. On ne peut pas penser ce problème après Kant comme on le pensait avant, en tout cas dans le monde philosophique. Eh bien, le monde extérieur que nous nous représentons n'est ce qu'il est que perçu par une conscience humaine. Donc cette référence au premier jour du monde, c'est la référence au premier jour du monde de l'homme. Alors le monde apparaît le sixième jour du récit. Il y a une indication dans la liturgie ashkenaz qui est que les slichot sont lus à partir du 25 Elul. Vous savez cela, dans le rite sfarad, les slichot sont lus à partir du 1er Elul. Mais, eh bien, ça se réfère au verset « Yehi or, qu'il y ait lumière, Yehi a pouvoir la numérique 25 ». Retenez cela. La première réponse à notre question, pourquoi c'est ce récit, la naissance d'Isaac, qui est relié au commencement du monde, c'est parce que c'est le commencement de l'histoire d'Israël, dans, si vous voulez, le récit dévoilé tel que nous l'avons dans la Torah, la naissance d'Isaac et pas la naissance d'Abraham. D'une certaine manière, Abraham, c'est la fin de la préhistoire d'Israël, et l'histoire d'Israël va commencer avec la naissance d'Isaac, d'après cet établissement d'analogie, mais que l'événement lui-même est de même nature. C'est-à-dire la naissance de l'enfant est toujours un mystère, quel que soit l'enfant. Et nous apprenons de la naissance d'Isaac. Mais il y a une telle prodigalité de ce miracle de la naissance de l'enfant dans l'histoire des hommes qu'on a perdu familiarité avec le miracle en tant que miracle. Et on ne le perçoit que quand on est empêché d'avoir un enfant. Alors là, on se rend compte à quel point avoir un enfant, c'est un miracle. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. Je veux dire, l'analogie qui me vient, une image littéraire qui me vient souvent en analogie avec cette notion de prodigalité du miracle qui nous empêche de voir le miracle du miracle. C'est ce fameux thème du Petit Prince que je vous cite souvent. Vous avez lu le Petit Prince, il y a un chapitre où il parle d'une planète où il y a une seule rose. Alors dans une planète où il y a une seule rose, alors on sait ce que c'est qu'une rose. Dans une planète où il y a des fleuristes, enfin, comment on appelle ces boutiques-là, des fleuristes, alors on sait plus ce que c'est qu'une rose. Mettez-moi en 150. C'est-à-dire que la prodigalité de la valeur masque la valeur. Mais chaque valeur est singulière. D'ailleurs, voilà, ce que je veux dire est très clair. Ce que le Midrash nous enseigne, c'est que chaque naissance d'un enfant, quel qu'il soit, est aussi miraculeuse que la naissance d'Isaac. Or, on sait très bien que la naissance d'Isaac est la naissance d'un enfant qui ne pouvait pas naître. C'est cette promesse donnée à Abraham, et la foi biblique commence dans la foi d'Abraham que cette promesse qu'il aurait à l'enfant s'accomplira. C'est-à-dire une préhistoire aboutissant à la stérilité absolue, s'entend dire commencement de fécondité. Et Isaac se fait attendre. Et ce n'est qu'en fin de compte qu'il y a possibilité pour Sarah et Abraham d'enfanter Isaac. C'est là que l'histoire des engendrements d'Israël commence. Par définition, puisqu'Isaac est le premier fils de l'homme, l'homme étant Abraham. Et c'est l'histoire du fils de l'homme qui commence avec Isaac. Voilà, j'ai un peu schématisé pour que ce soit suffisamment perceptible. Vous me direz si c'est clair, si on peut passer au paragraphe suivant. C'est suffisamment clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair?
Pour moi, ce qui n'est pas clair, c'est qu'on est passé de l'homme en général à Israël.
Terrain.
C'est qu'on est passé de la création de l'humanité,
oui,
à celle d'Israël.
Très bien. Oui. Enfin, j'ai court-circuité cette question, mais je pensais que ça allait de soi. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'histoire d'Israël, qui surgit du dedans de l'histoire de l'histoire de l'humanité. Et ta question a plusieurs dimensions, mais enfin, je vais en choisir une. L'histoire de l'homme ne va prendre sa signification biblique, sa signification messianique, qu'à partir de la naissance d'Isaac. Et dès ce moment même, l'histoire de l'homme, depuis l'origine du premier homme, va se transformer en préhistoire de l'histoire du Fils de l'homme. Et il s'agit de l'histoire du Fils de l'homme qui nous est racontée en tant que préface à la Torah comme loi. Tout ce qu'on nous a raconté avant la naissance d'Isaac, au niveau du problème qui s'est posé à nous, parce qu'il y a d'autres seuils, devient dès la naissance d'Isaac préhistoire. En fait, le seuil important, ça sera le Rosh Hashanah Pessah, c'est la sortie d'Égypte. C'est à la sortie d'Égypte que la descendance des patriarches devient la nation d'Israël à qui la révélation est faite. Mais cette identité de la nation d'Israël à qui la révélation sera faite se prépare dans les engendrements de la famille des patriarches, lesquels engendrements ne commencent qu'avec la naissance d'Isaac. Je vais vous donner tout de suite une référence dans le texte. Prenez la paracha de Toldot, qui est la naissance de Noach. Vous êtes au chapitre, dans le livre de Bréchit. La paracha de Noach, qui est au chapitre 6, au chapitre 6, il me semble, verset 9. On nous a d'abord décrit les 10 premières générations de l'histoire humaine, depuis Bereshit jusqu'à ce verset 9 du chapitre 6, la naissance de Noach. Il y a une première tentative de l'histoire humaine qui aboutit à un échec total, le déluge. Donc c'est vraiment effacé. Il y a un rescapé, Noach, qui va commencer les engendrements de l'identité humaine. Et dès que nous percevons l'histoire de l'homme dans la perspective des engendrements, ça nous renvoie à un sujet très important, c'est que l'histoire de l'homme n'a de signification qu'en vue de la mise au monde du Fils de l'homme. En hébreu, c'est le même mot qui dit histoire et engendrement, Toldot. On est très familier à cela, que le récit historique de la Bible, de l'histoire de l'homme, c'est une histoire de généalogie, c'est un récit généalogique. Il y a une modification de l'identité humaine depuis le premier homme jusqu'à la réalisation de cet objectif, et c'est l'objectif messianique, l'homme réussi, l'homme vivable. Il sera l'homme vivant. Et tout se passe comme si la perspective de ce récit nous montre que toute l'histoire de l'humanité est un effort d'engendrer l'homme pour qui le monde a voulu être créé et que le texte prophétique appelle le Fils de l'homme. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'engendrement du Fils de l'homme. C'est pour le Fils de l'homme que le monde a été créé. Si c'était pour l'homme que le monde a été créé, c'est un échec. Alors, il est bien évident que dans la cohérence biblique, il ne s'agit pas d'échec. Je veux dire que l'homme nous apparaît dans son histoire comme absolument pas approprié à la réalité qui est celle de son monde. Et tu m'as fait entrer dans un problème très vaste, mais j'espère que c'est suffisamment clair, Ken. Si l'état de le monde de l'homme, parallèlement à l'homme du monde, mais dans un autre sens, c'est le dernier mot de la création, c'est un échec. Parce qu'il y a un problème posé à l'histoire humaine, la coexistence des individus, la coexistence des frères, c'est le problème de l'histoire humaine et il n'a pas de solution. C'est clair. Et c'est le récit biblique, comme vous le savez. Le récit biblique, c'est le récit des différentes tentatives de résoudre le problème de l'équation de fraternité. Et on voit qu'il n'a pas de solution. Est-ce que c'est clair? Top. Par conséquent, dès le début, on a l'intuition profonde que toute l'histoire de l'humanité est une sorte de l'histoire d'une matrice d'engendrement du Fils de l'homme. C'est donc pour le Fils de l'homme que le monde a voulu être créé, que Dieu a voulu créer le monde. Et là, je me branche sur la signification de cette expression telle qu'elle est chez les prophètes hébreux. Je signale ça parce que cette catégorie de Fils de l'homme fait partie de la théologie chrétienne avec un tout autre sens que cela a chez les prophètes hébreux. Bon, est-ce que c'est bien clair? Donc, ceci dit, en particulier Ézéchiel, ceci dit, ce que le récit biblique de la Torah nous révèle, c'est que cette matrice d'engendrement du Fils de l'homme, c'est l'identité Knesset d'Israël. C'est la nation d'Israël, qui est la matrice d'engendrement du Fils de l'homme. Chose reconnue de manière que vous savez, par la théologie chrétienne elle-même. Si les Juifs n'en étaient pas convaincus, Dieu a créé les chrétiens pour les convaincre. C'est clair. Et c'est pas une blague ce que je dis. Mais alors, moi, il sert à quelque chose. Non, ça, c'est une blague. Et alors, on va s'apercevoir que les engendrements vraiment, qui s'appellent Tolado, commencent avec Isaac. La preuve, eh bien, vous allez lire verset 9 du chapitre 6. On a fini avec l'humanité d'avant le déluge. Échec. Alors, ça recommence. Et voici les engendrements de Noé. Noé, homme juste, Noé, bien, homme juste, intègre, était-il dans ses générations, et il se conduisait avec Dieu. On va se demander pourquoi la tradition n'a pas nommé cette paracha Toldot, elle a nommé Noé. Bien, il va falloir attendre Isaac pour qu'une paracha soit nommée Toldot, engendrement. Alors vous savez que c'est une règle, la tradition va toujours donner comme nom d'une paracha, d'une sidra, d'une péricope, okay, le premier mot important du verset. Alors, le premier mot important du verset ici, c'est Toldot. C'est clair? Vous donnerez une lecture inspirée d'un des commentateurs du Zohar, parce que dans la lignée de Noah, il n'y a pas vraiment Toldot dans le sens plein, c'est-à-dire modification positive d'identité qui fait passer d'une étape à l'autre de l'identité père à l'identité fils. Il y a une sorte de répétition par copie conforme. Il faudra attendre la famille d'Abraham pour que les Toldot soient vraiment des Toldot. Si vous voulez, je vous cite un verset de l'Ecclésiaste, pas de l'Ecclésiaste, déjà. Si, Kohelet. Oui. Rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, nouveau sous le soleil? Tout se répète dans des formes tellement différentes que ça nous trompe. Mais tout se répète. Mais c'est une espèce de pessimisme apparent du temps selon l'Ecclésiaste. En Khadash Tachat HaShemesh. Or, ça c'est l'histoire universelle. Il y a deux auteurs que j'ai étudiés qui ont mis cela en évidence. Il y a des grandes structures de l'histoire des civilisations qui se répètent sous des formes absolument différentes, sous des formes phénoménologiques différentes, mais le fait de civilisation c'est le même. Le développement d'une civilisation passe par tous les âges que la civilisation européenne a connu, par exemple, mais la civilisation de Babel l'avait connue. Ces différentes étapes. Celle de Perse l'a connue. Celle du Niger l'a connue. J'ai étudié la chevalerie chez les Nigériens. Et ça ressemble étrangement à la chevalerie européenne, surtout française que je connais mieux, le roman de la Rose, c'est la cisma de Mitterrand. C'est un mythe errant. Et sous des formes extrêmement différentes, mais c'est la même chose, c'est la même chevalerie. Si vous avez visité le Maroc, par exemple, qui d'entre vous a visité le Maroc? Oui, Marrakech, vous avez visité. Bon, ben vous voyez les paysages de la chevalerie du Moyen-Âge européen, mais en marocain. Eh bien, c'est clair, quand même. Tu vois, les hommes bleus du sud marocain Michelot, comme on les appelle, eh bien, vous voyez, sous une toute autre forme, vous voyez, Roland à Roncevaux, mais en tafilali, en filali. Alors, vous voyez, et non seulement je vais vous citer, lisez le verset avec moi, et les taureaux de Noir, Noir. Voici les engendrements de Noir, Noir. Est-ce que c'est clair ? Un fils de Noir sort d'une machine à photocopier, à polycopier, qui s'appelle Noir. Rien de nouveau sous le soleil. C'est clair ? Donc, c'est-à-dire, le temps fait du surplace, dans une espèce de kaléidoscope de formes diverses et avariées. Mais, finalement, c'est la même chose. Alors, le Midrash dit sur ce verset de l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, mais sous la lune, oui. Donc, et vous connaissez le Midrash qui compare le temps des Goïm, le temps solaire, et le temps d'Israël au temps lunaire. Le temps des Goïm, c'est le temps de l'année solaire où il y a des choses autres, mais qui sont mêmes. Si les deux auteurs auxquels je fais allusion, c'est Oscar Spengler et l'autre, c'est Toynbee. Bon, un c'est en allemand, un c'est en anglais, mais ils ont sur ce problème à peu près la même thèse, les structures du développement d'une civilisation. Eh bien, le collègue Lézard dit « Rien de nouveau sur le soleil », d'après ce midrash que je viens de vous citer, ça pourrait être traduit comme ça, « Il se passe rien chez les goyim ». Ça recommence et c'est la même chose. Tandis que le chidouche, le renouvellement, les toladotes, ça c'est sous le signe de la lune. Et vous savez d'ailleurs que les jours de la fécondité féminine sont comptés par la lune et pas par le soleil. Ça vous savez la correspondance, 28. Donc, bon. Et alors, donc c'est les toladotes. Okay. Pour revenir donc à notre sujet, c'est la raison pour laquelle l'histoire du fils de l'homme, j'ai corrigé grâce à, enfin aménagé grâce à ta question, commence à Isaac. C'est vrai ? Mais il s'agit bien du fils de l'homme. Vous savez que la seule identité qui peut s'acquérir, c'est l'identité juive. Elle est universelle. Un homme ne devient jamais un autre homme. Sauf l'égoïme quand il devient juif. C'est le seul cas. Étudiez bien le problème et vous verrez qu'il n'y en a pas d'autre. Est-ce que c'est clair ce que là ?
Bien.
Stéphane ?
Un Français qui va en Amérique,
il n'est pas américain. C'est un Français de citoyenneté américaine. Ses descendants seront des Américains d'origine française. Mais un Français, toute sa vie, reste Français, même quand il est citoyen américain. Tandis que dès qu'un goy devient juif, il est juif, le jour même. En sortant de la tevila, je vous cite le Talmud. Taval ve'ala, haré ukri Israël chol davar. Attends, je vais finir parce que c'est clair ce que je dis là. Mais parmi l'universel humain, il y a une seule identité qui est universelle. Et je vais vous dire, qui est véhicule d'une identité. La preuve très paradoxale, c'est l'exil. Les Juifs ont fait la preuve dans l'exil qu'un Hébreu peut être n'importe quoi d'autre à la fois. Un Juif peut être français, il peut être aussi allemand. Croyez-vous qu'un Français peut être allemand, qu'un Allemand peut être français ? Mais un Juif peut être tout l'un ou l'autre. Et alors, quand je dis ou l'un ou l'autre, multipliez ça par toutes les manières d'être non-juif qui sont toutes honorables d'ailleurs. Il ne faut pas être raciste. Toutes les manières de non-juif d'être, sont honorables. Même les Français. Alors, je dis ça parce que les Juifs français croient que la seule manière d'être juif, c'est d'être juif français. Dès qu'on leur parle d'un juif non-français, ils ont un regard de pitié. Comment c'est possible ? Comment peut-on être persan ? On dit ça avec des yeux persans. Mais je peux vous dire ça d'expérience parce qu'en tant que juif de l'exil, j'ai vécu ça. La première fois que j'ai appris qu'il y avait des juifs qui n'étaient pas des juifs français, ma réaction était de pauvre. Et c'est vrai, comment c'est possible de ne pas être français ? Est-ce que c'est clair ? Nous, en Algérie, on était français jusqu'aux sourcils. On avait les sourcils français. C'est comme ça qu'on parlait là-bas. En tout cas, pour revenir, qu'est-ce que tu voulais dire tu
Ainsi, Yitzhak est un enfant qui ne peut pas naître, mais Adam Arishon aussi est un enfant qui ne peut pas naître, tout au moins pour le Midrash.
mais pas seulement pour le Midrash, c'est la même chose.
La position des anges fait en sorte qu'Adam et Richon...
Très bien, très bien, très bien, c'est la même chose. Alors, ta question est réduite au préalable à la question précédente, tu rejoins. C'est clair. Et Adam a été créé, j'ajoute cette formule grâce à ta question, Adam a été créé comme père du premier homme. Comme père du fils de l'homme. Je pense à trois choses à la fois, ça m'a entremêlé. C'est clair ce que je dis. Adam a été créé comme père du fils de l'homme. C'est clair. Le fils de l'homme avait vraiment un père. C'est Adam Richon. C'est clair. Alors, voilà ce que je voulais ajouter. Alors, ça me mènerait trop loin. Ah, ça c'est à la fin du cours. Mais, disons, comme il y a 10 jours, ça sera la fin du discours. Mais il y a encore un quart d'heure.
Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre les enfants d'Abraham et les enfants d'Israël? D'abord Ismaël, qui correspondait à
Caïn. Non, très bien. Ce thème-là, on va le voir avec les enfants d'Isaac. Non, mais l'idée est exacte. C'est-à-dire qu'il y a une première tentative de l'histoire humaine. Elle a échoué. Donc il est normal qu'on trouve les structures de la tentative des engendrements dans ces structures un certain parallélisme. Mais tu trouveras d'abord ce parallélisme entre la lignée de Caïn et la lignée de Shet. Et ensuite, cette structure profonde, on va la retrouver dans l'histoire de la famille d'Abraham. Et je profite de ta question pour vous dire quelque chose de très important. Vous avez dû remarquer cela, que le récit biblique commence avec un pessimisme énorme. C'est un récit d'échecs successifs qui mène à des catastrophes successives. On ne peut pas ne pas s'étonner. Comment le récit biblique, la Bible étant le message prophétique de l'espérance humaine, commence par nous asséner de manière massive, froide, imperturbable, un récit d'un pessimisme effroyable. Et on ne s'en rend pas compte. Tout est fou. C'est vrai ? Quitte à vous.
Sur ce qui est exercice, les catastrophes, les interdictions.
Ah, ça c'est parallèle. Les calottes, vous voulez dire, les malédictions. Non, c'est pas ça que je parle. Le récit de l'histoire humaine, ne prenons que la première période jusqu'au déluge. On ne se rend pas compte à quel point c'est effroyable comme impression. La Torah, qui va être le véhicule d'un message d'espérance, commence par nous dire vous êtes fichus, il n'y a pas d'espoir, tout aboutit toujours. C'est énorme. On ne se rend pas compte. Hein. Et alors, il y a un premier récit de l'histoire humaine qui est pessimiste absolu. Tout est bouché. Chaque équation qu'il faut résoudre aboutit à une catastrophe. C'est clair ? Dans ce récit du pessimisme universel, il y a un récit optimiste d'espérance qui commence avec Abraham. Un récit dans le récit. Les mêmes situations sont reprises dans la perspective d'une espérance de solution. Dans le récit de l'histoire universelle, le frère tue le frère. C'est l'histoire universelle, c'est Caïn tue Abel et c'est sempiternel. Okay. Vous avez vu toutes ces réunions mondiales pour la paix. Okay. Et vous avez vu que la paix qui les intéresse, c'est la nôtre. Hein. Il n'y en a pas d'autre. C'est encore notre problème. Mais l'ONU joue au gouvernement d'Israël. C'est la raison pour laquelle le gouvernement d'Israël joue à l'ONU. Il y a bien quelque chose là-dedans. Alors, en tout cas, tandis que dans la famille d'Abraham, l'histoire va commencer quand on est sûr que le frère ne tue plus le frère. C'est l'amour de Joseph et ses frères. C'est là que Bereshit s'arrête et que l'histoire va commencer. C'est clair ? Toutes les tentatives sont épuisées et on arrive enfin, le message d'espérance éclate dans l'histoire de Joseph et ses frères. Comprenez bien cela. Joseph, c'est un premier fils aîné qui aime ses frères. Alors on a réussi à résoudre le problème Caïn Abel. Bon, là je pourrais vous en parler pendant des heures. En fait, il faudrait étudier ça pendant des années. Mais je crois que le thème est clair. Ken. Alors, tu vois, donc c'est pas étonnant du tout. Au contraire, qu'on retrouve les mêmes structures de l'équation d'identité humaine dans les différentes généalogies. Mais ce que je vais indiquer, je vais vous le dire d'ailleurs de manière un peu ramassée, 13 fois dans toute la Bible, le mot de Tolado, qui signifie l'histoire, est employé. il est écrit avec toutes ses lettres que deux fois. La première fois, le premier verset, le dernier, qui se trouve dans le livre de Ruth pour annoncer les engendrements de David à partir de Ruth. Dans toutes les autres étapes intermédiaires, le nom de Toladot est écrit avec une lettre qui manque, indévable. On appelle ça défectif en langage de cuistre. Technique. Et il y a un cas particulier, les engendrements d'Ishmaël, ils manquent deux vaves. C'est Chasser de Chasser. Okay. Tous les autres engendrements, ils manquent toujours un des deux vaves. Chaque fois, il y a une raison pourquoi c'est celui-là et pas un autre. Mais les tours d'Ishmaël, vous avez fait dans le texte, les deux vaves, ils manquent. Parce que vaves, ça s'écrit avec deux vaves. Alors ça manque tout. Okay. 13 fois. Dans tout le Mikra. Et le premier, c'est les tours d'eau sur Maïm Barès Bibaréam. Et le dernier, c'est dans le livre de Ruth, la généalogie de David.
Bon. Pourquoi il y a un doublement pour Ishmaël ?
Parce que c'est doublement défectif, c'est stérilité absolue, c'est copie conforme pure et simple, c'est la bénédiction du nombre. Mais il n'y a pas. D'ailleurs, j'ai souvent parlé avec des théologiens musulmans. Les Arabes ne veulent pas me parler, comme vous savez, mais il m'arrive dans des réunions de parler avec des Pakistanais et des Indonésiens. Ils ont des théologiens musulmans. Et alors, eux ne connaissent absolument pas, mais rejettent totalement la notion, je vais vous dire à la personne, d'évolution créatrice, qu'il se passe quelque chose dans la durée. C'est complètement évacué de la pensée de l'islam. La durée n'a pas de sens, l'histoire n'a pas de sens. Okay. Est-ce que c'est clair, Julie ? Chez les Grecs, il y avait les deux, il y avait une marloquette entre deux tendances. Le nom d'Héraclite et l'autre, j'ai oublié son nom. Mais, Démocrite, bien fait. Un qui tient compte de la durée et l'autre qui évacue la durée. C'est une controverse dans toutes les traditions philosophiques. Il y a toujours une tradition philosophique existentielle pour qui la durée, c'est important, il se passe quelque chose dans l'histoire, et une autre qui évacue complètement la durée. Donc, je m'aperçois qu'on aura le temps finalement que d'étudier la première question, mais je vais au moins l'achever. En vous donnant très rapidement une deuxième lecture de notre question, c'est-à-dire, vous avez remarqué qu'on a ouvert les livres, mais vous les lirez à Rosh Hashanah. Eh bien, une deuxième manière de percevoir cette question qui est que pourquoi on commence à l'histoire d'Isaac et pas à l'histoire de la création du monde, donc de l'homme. Mais tout ce que vous avez dit, de ce que vous avez dit, rien n'est inutile. Ça fait partie du sujet. Eh bien, réfléchissons un peu sur un point de la première étude, pour quelle raison la naissance d'Isaac est si difficile. Et un des points. Okay. Bon, d'abord, il y a ce thème de la stérilité d'une préhistoire antérieure à laquelle est annoncé un message d'espérance de fécondité. Et c'est lorsque Abraham, qui fait encore partie de cette histoire d'avant les patriarches d'Israël, il en est la transition. Dans la Gemara, une question qui se pose, est-ce qu'Abraham était un Ben Noir ou déjà un Israël ? C'est un sujet très important, je me borne à vous le signaler. Et alors, lorsque Abraham, se connaissant comme fin d'histoire, aboutissant à une stérilité absolue, quand c'est fini, quand il y a épuisement de l'élan vital, c'est parce que j'ai avec personne ce soir, Baruch Haba en tout cas, puisqu'il est là, eh bien, lorsqu'Abraham est capable d'entendre, d'intégrer ce message, la Bessora, l'annonce qu'il sera fécond, qu'il engendrera, qu'il s'appelle Abraham. C'est clair ? Et que la foi biblique commence. Ça, c'est l'écran du problème. C'est bien clair. Il y a un deuxième niveau d'écriture qui est important. Je m'appuie ici donc sur les catégories du Midrash, et qui est que nous avons trois patriarches. Et c'est un sujet encore pour lui-même. Pourquoi l'identité d'Israël ne commence pas par un profil d'identité comme toutes les traditions, mais pourquoi pour nous trois ? C'est un sujet encore pour lui-même. Mais ça, on nous apprend que ces trois justes, tzadikim, Abraham, Isaac, Jacob, ne sont pas des sosies. Ils ne sont pas des copies conformes. Un fils de l'autre dans le sens des engendrements. Il se passe quelque chose entre l'identité d'Abraham, l'identité d'Isaac, l'identité de Jacob. Et au niveau du vocabulaire que je vais choisir, du Midrash, au niveau des vertus de l'identité du juste, il y a trois vertus fondamentales très différentes qu'il est nécessaire d'unifier, de faire converger pour l'identité d'Israël à Paris. Israël est fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Est-ce que c'est bien clair ? Fils d'Abraham, c'est les fils d'Abraham. Fils d'Isaac, c'est les fils d'Isaac. Fils de Jacob, c'est les fils de Jacob. C'est trois identités importantes dans l'histoire du monde. Mais Israël, c'est fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Les trois à la fois. Et c'est pour ça que c'est une identité surhumaine, finalement. Et, disons, humaine plus. Parce que surhumaine, ça va vous donner des cauchemars. Et d'ailleurs, l'humanité a passé son temps à nous rendre sous-humains. C'est pas pour rien. Okay. En tout cas, pour revenir au problème, c'est que la vertu dominante d'Abraham en tant que tzaddik et d'Abraham et d'Isaac en tant que tzaddik sont opposées. La vertu dominante d'Abraham, c'est la milat ha-chesed, c'est la grâce absolue dans le sens théologique, la bonté absolue, l'altruisme absolu, alors que la vertu dominante d'Isaac, c'est la justice stricte. Son histoire, c'est l'histoire de la mise à l'épreuve selon la justice. Je vais le dire en quatre phrases, mais c'est le sujet du deuxième chapitre, on lit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Il ne pouvait pas naître, c'est notre problème. Il est né, il devait mourir, il n'est pas mort. Et ça, c'est l'histoire de son épreuve. Et il est exemplaire d'ailleurs de tout individu dans l'histoire du monde. Isaac est entre les deux patriarches du commencement des engendrements et de l'achèvement des engendrements. Isaac, entendez bien ce que je veux dire, il est le fils du père et le père du fils. Et lui, qu'est-ce qu'il est ? Mais tout un chacun dans l'histoire du monde, c'est d'abord Isaac. Est-ce que c'est clair ? Et alors, la destinée de l'individu pour lui-même, c'est intentionnellement, je dis individu et pas personne, okay ? Elle est exemplaire chez Isaac. Eh bien, il a cette vertu d'être capable de mériter le droit d'être en payant le vrai prix de ce qu'il a reçu en don, son être. Il n'y a qu'un seul vrai prix de l'être que j'ai reçu en don, c'est cet être lui-même. Alors comme il est capable de le rendre, il s'acquiert. C'est au moment où il est capable de rendre son être que Dieu dit « c'est à toi ». Et il dit « Abraham, ne le touche pas ». C'était ça l'épreuve. Est-ce que c'est clair ? Donc, Yitzhak a vécu l'intimité de la Midat Hadin. Il est le tzaddik de la Midat Hadin. Il est capable de la Midat Hadin. C'est clair, je reprends l'analyse. Voilà. Il a reçu l'être en don. Pour qu'il, et cet être, ce don lui soit confirmé comme lui appartenant vraiment, c'est le sens de l'histoire de notre destinée sur Terre, acquérir le droit d'être, eh bien, il faut le payer, ce don. Mais à quel prix ? Il n'y a pas d'autre prix que l'être lui-même. Est-ce que c'est clair ? Il n'y a pas d'autre monnaie que moi pour payer moi. Alors dès qu'il est prêt à payer le prix, il s'acquiert. Est-ce que c'est clair ? Oui, pourquoi pour Isaac, ce n'est pas une épreuve ? Parce que c'est sa vertu d'être Isaac. C'est pour Abraham que c'est une épreuve. Abraham, c'est le tzaddik de la Midat ha-chesed. Il est le généreux par excellence. Qu'est-ce qu'on lui demande ? L'acte le plus terrible du point de vue de la rigueur. Sacrifier son fils. Et regardez ce récit. Dieu a, avec énormément d'efforts pour Abraham, fini par faire croire à Abraham qu'il aura un enfant. Et dès qu'il l'a, il lui dira le mois. On ne s'est jamais rendu compte qu'est-ce qu'on lit quand on lit ce qu'on lit. Vous avez vu, d'ailleurs, le Midrash le met en évidence. Ah, stupéfaction d'Abraham. Comment cet enfant que tu m'as promis, sauf tu me l'as donné, tu veux que je le rende. Le monde qu'il y a là derrière, c'est un monde énorme. Okay. À quoi joue le monde okay.
Il y a certains personnes israéliennes qui accusent Dieu d'une rigueur impitoyable.
Mais elle oublie que le sacrifice n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'elle ne sait pas de quoi il parle. C'est clair. Je connais, c'est à la Beth Yehoshua.
Comment?
C'est pas à la Beth Yehoshua que tu parles
Non, non, personnellement.
Ou d'un endroit. Bon, mais c'est lui le premier qui avait. Donc, oui, à quel point on a été imprégné de la mentalité de la culture chrétienne qu'on parle du sacrifice d'Isaac comme s'il avait lieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on peut se dégager de cela. Okay. L'essentiel du message de ce récit, c'est de nous apprendre que le sacrifice n'a pas lieu. Et on le lit comme s'il avait lieu. Bon, je reviens au sujet. Et alors, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est la différence d'identité entre Abraham et Isaac. Ça veut dire qu'Abraham engendre un autre Abraham, c'est facile. engendrer Isaac, c'est difficile. Que le tzadik selon Abraham engendre le tzadik selon Isaac, c'est ça, cette mutation-là, qui est la difficulté. Que la miséricorde absolue engendre la rigueur absolue, c'est ça qui est dur. Pour Abraham, engendrer Ishmaël, c'est très facile. Il suffit de poser le regard sur Agar. Ça veut dire que c'est très facile. Abraham est capable de faire un Ishmaël. Il en a fait tellement et il continue. Et la bénédiction d'Ishmaël, c'est le nombre effarant. On parle du périjaune, mais on ne sait pas de quoi on parle. Donc, est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et d'ailleurs, bon, c'est un problème en soi, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le monde manque d'humour, qui présente Israël comme les tortionnaires d'une minorité humaine, le monde arabe. c'est vraiment un manque d'humour total. Et encore une fois, ici, il n'y avait que les Arabes, il y a tous les musulmans derrière. Ici, avec tous les musulmans et tous leurs alliés, c'est-à-dire le monde entier. Vous vous rendez compte de qui on est tortionnaire? Et alors, ça m'amène à la fin, et après je vous raconte la blague. Ça fait partie de ce que je viens de dire, comme vous allez voir. Et bien c'est ceci, c'est le même thème. Créer le monde, c'est la miséricorde absolue. C'est-à-dire donner l'être. Le chesed absolu, c'est mettre au monde, faire exister l'autre. La création, c'est un acte de chesed absolu. Et qu'est-ce qu'on crée? Le monde qui est soumis à la loi de détermination la plus rigoureuse, qu'on appelle la loi de la nature. Et vous voyez, la création du monde, c'est la midat chesed qui crée la midat adin. La midat adin, c'est la midat de ce monde-ci. Est-ce que c'est clair? Alors vous voyez que Yitzhak, c'est le tzaddik de ce monde-ci par excellence. Il est le tzaddik à midat adin. Bon, donc c'est le même thème. C'est clair? Bon. Alors maintenant, avant de vous dire Shana Tova, je vous rappelle qu'on se revoit vendredi matin pour les Slichot, pour ceux qui viennent à 4 heures du matin, les Slichot. Et on continue par Shachrit. Et bien, je vais raconter cette dernière blague, comme je l'ai entendue il y a quelques jours à Paris. Voilà, c'est le bon Dieu qui en a marre de la terre. Alors, je change de vocabulaire. Et, qui convoque Bouche, Gourbatchev et Shamir. On dit voilà mes agneaux, la terre, j'en peux plus. Dans 10 jours, si vous ne faites pas de choua, il n'y a plus de terre. Et alors, allez prévenir vos peuples. Alors Bush, qui convoque les Américains, qui a dit, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, Dieu existe, je l'ai rencontré. Une mauvaise nouvelle, dans 10 jours, il n'y a plus de terre. Parce que choua, vous ne ferez jamais. Gorbatchev qui convoque les Russes et qui dit, j'ai deux mauvaises nouvelles à vous annoncer. Premièrement, Dieu existe, enfin, il existe. Et deuxièmement, dans 10 jours, toute terre. Shamir qui convoque son peuple, il dit, j'ai deux excellentes nouvelles. Premièrement, Dieu existe, on le savait. Et deuxièmement, dans 10 jours, il n'y a plus d'intifada. Ceci dit, c'était pas une prophétie, mais... Bon. Regardez, vous avez fait arbitre, moi je suis obligé de partir. Vous avez pris, je suis obligé. Je vais faire arbitre.
D'accord. Ah, c'est pas en fait arbitre, hein.
Il y a arbitre, moi je suis obligé de partir.